Vous l'avez compris, un boomerang très particulier ce matin, un boomerang fantôme, comme dirait l'ami Vincent Josse, à partir d'archives, d'interviews, de mots de Delphine Seyrig. C'était mon rêve de la rencontrer. Alors, pour cette journée spéciale, cette rencontre, on l'a organisée, on l'a inventée. C'est parti. Si vous pouviez inviter, rencontrer, dialoguer avec n'importe qui est-ce que vous choisiriez? On a toutes et tous joué un jour à ces dîners imaginaires, à ces rencontres rêvées. Et je me souviens, un jour, d'un entretien avec le dessinateur Sampé qui me racontait à ce micro comment chaque vendredi soir, avant de s'endormir, il organisait des soirées dans sa tête, invitant Debussy, Duke Ellington, Michel Legrand, Eric Satie. Eric Satie qui lui avait fait un sale coup en critiquant Maurice Ravel qui avait fait une tête épouvantable, interrompant le dîner, tu parles d'un drame. C'est pas drôle d'être médium, me confiait Sampé, à propos de ce don qu'il avait si longtemps empoisonné. Et pourtant, c'était si drôle, à l'antenne, et si beau d'entendre ses rêves se déployer, ses fantasmes assouvis, ses fantômes de voix. Mais j'ai voulu en faire autant, et faire parler un matin seulement, celle que j'ai toujours voulu rencontrer toute ma vie, à partir des mots que j'ai entendus d'elle, surtout à la radio. Après tout, est-ce que c'est pas ça, la radio, la chance inouïe de fabriquer des fantômes, quand le son d'une voix laisse imaginer le corps et la pensée de quelqu'un? Ça vous dit, ce matin, de rêver?
Boomerang, boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, un boomerang un peu spécial ce matin pour une journée qui l'est tout autant. Un boomerang fantôme, comme dirait Vincent Josse, avec l'une de nos plus grandes comédiennes, sans doute l'un des visages et l'une des voix les plus iconiques du 7e art. Chez René, Truffaut, Buñuel, mais aussi Marguerite Duras, Chantal Akerman, Ulrike Oettinger, une femme venue ce matin par la magie de l'archive pour nous parler de femmes, d'engagement, de voix, de cinéma. Bonjour Delphine Seyrig, merci d'être là.
Bonjour.
Bah moi-même, j'y crois pas. C'est fou quand même, là.
Je comprends pas ce que vous voulez dire.
Bah, c'est-à-dire que vous n'êtes plus là, quoi. Vous n'êtes plus de ce monde. Ça fera 21 ans le 15 octobre.
Ça, c'est vous qui le dites.
Enfin, l'essentiel, c'est quand même que vous soyez là. Et si j'ai tenu à vous convier ce matin, Delphine, c'est parce que vous êtes devenue, que vous le vouliez ou non, une figure du féminisme. Féministe, tiens ce mot. Qu'est-ce qu'il vous inspire?
Complètement féministe. Je le dis avec beaucoup de sérieux. Je n'aime pas qu'on en sourie. Je pense que c'est très important et très grave. C'est très difficile d'être féministe. On est très attaqué quand on est féministe. On se moque de vous, on vous prend pas au sérieux. On vous dit hystérique. Ce ne sont pas les féministes qui sont hystériques, ce sont les gens contre le féminisme qui sont hystériques. Et c'est contre ça que nous avons à lutter. C'est arriver à ce qu'on respecte et qu'on ne soit pas, au contraire, considéré nous comme des folles. C'est les gens qui ne veulent pas nous considérer comme des êtres égaux qui sont, eux, fous. On ne peut pas continuer à accepter le rapport de force qui existe dans notre pays et dans bien d'autres dans ce domaine.
Mais ce rapport de force, il se traduit par quoi, concrètement?
Il y a une culture féminine et une culture masculine. Il est évident, par exemple, on se posait la question, pourquoi est-ce que les femmes ne sont jamais de grands artistes? Pourquoi est-ce que, depuis la nuit des temps, on parle de Michel-Ange, de tout ce qui est art dans notre civilisation, est le fait des hommes et pas des femmes? Alors, les femmes peuvent et pensent qu'elles sont moins douées, moins intelligentes, que le génie est une chose qui ne leur appartient pas. On peut décider que les femmes sont inférieures. C'est une décision qu'on peut prendre, c'est une décision raciste.
Ce que vous nous dites, en fait, et c'est passionnant, hein, Delphine Seyrig, c'est que les femmes ont aussi intériorisé la domination dont elles font l'objet, et que l'éducation qu'on leur inculque reproduit cette domination jusqu'à les empêcher d'exister pleinement en tant qu'individus.
Les femmes sont des personnes qui ont toujours été axées sur les autres, jamais sur elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles s'occupent de leurs enfants, de leurs maris. On a du mal à trouver son identité quand on est une femme. C'est parce qu'on est dirigé dès l'enfance vers ce qu'on va faire, c'est-à-dire avoir des enfants, peut-être gagner sa vie, mais ça sera accessoire. En fait, on s'occupera de son mari et de ses enfants. Les petites filles grandissent, et même de nos jours, dans l'adolescence, c'est vers ça qu'elles sont axées dès leur petite enfance. Donc c'est très difficile pour une femme de se dire « Moi, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux faire, moi ?» Elles se sentent coupables. Et c'est bien normal, on leur a fait sentir que leur rôle était de s'occuper des autres.
Quand est-ce que vous êtes devenue féministe?
En 69, j'avais lu des textes de femmes américaines qui avaient déjà s'étaient regroupées, et je me suis aperçue qu'il existait des groupes de femmes à Paris. Et j'ai été les écouter et me mélanger à elles, Et à partir de ce moment-là, j'ai suivi le mouvement. Je peux carrément dire que j'ai suivi le mouvement. Et j'ai été très... ça a été une grande révélation pour moi de pouvoir ouvertement parler de, et comprendre cette rébellion que j'avais toujours sentie en tant qu'adolescente. Et en tant qu'actrice, ça a été inestimable pour moi puisque j'ai compris ce qui m'empêchait d'adhérer à certaines choses au cinéma et au théâtre. Et à la fois, ça m'a permis de déblayer, de voir clair, d'avoir mes propres jugements, de ne plus me laisser impressionner par les jugements de mes patrons qui étaient des hommes, que ce soit des metteurs en scène ou des producteurs. Tout ça, ça a influencé ma vie énormément et ça m'a donné de la force.
Pour autant, et c'est intéressant, là je parle sous votre contrôle, mais vous n'avez pas toujours regardé de cette façon les rapports entre les hommes et les femmes. Vous avez évolué, Delphine. À une époque, vous pensiez qu'une femme devait d'abord plaire.
Oui, mais c'était déjà très lucide. Je veux dire, il y a une forme de lucidité chez les femmes quand elles savent qu'il faut qu'elles plaisent, parce que c'est la vérité. Elles ne peuvent se déplacer dans le monde que en plaisant. Donc j'étais très lucide en pensant ça, et je crois qu'en même temps il y avait en moi une grande révolte qui faisait que il y avait quelque chose quand même en moi toujours qui s'entrechoquait avec ce désir de plaire. Ça donnait quelque chose, et ça donne toujours quelque chose de pas très harmonieux. Je crois que le fait de savoir qu'il faut plaire pour une femme, c'est très important si on veut se sortir de ça, si on veut pouvoir se libérer de cette obligation. Oui. Il faut d'abord bien la connaître.
Pour qu'on comprenne bien, alors votre féminisme aujourd'hui repose sur quoi? Quel en est le fondement?
À ma communication avec d'autres femmes. Ce qui me frappe le plus chez des femmes qui n'ont pas encore pris conscience de leur féminisme, parce que moi je pense que toutes les femmes sont féministes, mais il y en a qui en sont plus conscientes que d'autres, et ça se traduit immédiatement par une communication avec d'autres femmes. Je crois que c'est ça la première chose, c'est d'écouter d'autres femmes parler et puis de leur parler de soi aussi. Moi, si j'ai un grand besoin de ça, je pourrais pas vivre si j'avais pas ça, si je pouvais pas parler avec d'autres femmes de moi, d'elles et de toutes les autres. Enfin,
n'empêche, Delphine Seyrig, et c'est une question qui se pose plus que jamais aujourd'hui, est-ce seulement possible d'être féministe quand on est comédienne, quand on travaille dans une industrie majoritairement dirigée par les hommes, quand on est dépendant du regard de réalisateurs, même si, c'est vrai, vous avez travaillé auprès de cinéastes comme Chantal Akerman, Marguerite Duras, Liliane de Kermadec ou encore Ulrike Oettinger?
Je crois qu'il y a une chose qu'il faut dire, c'est que si on est féministe et qu'on est actrice, on cesse pratiquement de jouer si on ne veut accepter que des choses qui donnent de la femme une image féministe. On cesse d'être actrice parce que ça n'existe pas. Bon, il faut qu'on prenne nous-mêmes en charge les rôles que nous imaginons, les choses que nous savons. Il faut qu'il y ait des femmes qui se mettent à écrire.
Elles écrivent hein, de plus en plus, elles réalisent même de plus en plus aujourd'hui, même si elles restent minoritaires dans le monde du cinéma. Quand vous voyez des films réalisés par des femmes, qu'est-ce que vous vous dites ?
Je crois que le cinéma féminin est aussi varié et aussi divers que le cinéma des hommes. Ce que je trouve personnellement, c'est qu'elles ont un regard sur le monde qui est, lui, un autre regard, un nouveau regard sur le monde.
Un female gaze, quoi.
Je comprends pas ce que vous voulez dire.
Bon, disons un autre regard, un autre cinéma.
Mais elles font un cinéma qui est aussi différent les unes des autres que possible. Donc, et c'est pas forcément un cinéma militant du tout.
Delphine Seyrig, de quel cinéma est-ce que vous rêvez en fin de compte? Quel cinéma est-ce que vous avez envie de faire?
J'ai envie de parler de choses qui existent et d'arriver à me rapprocher de moi. C'est-à-dire que ce que je vis en ce moment, moi, beaucoup de gens le vivent en même temps que moi, c'est le fait que nous sommes des femmes. Il y a beaucoup de femmes en France, il y en a énormément, et je sens que on ne parle pas d'elles, que c'est toujours les hommes qui les ont montrées, qui en ont parlé, et je sens que en tant qu'actrice maintenant, j'ai envie de me rapprocher de moi en tant que femme. Je voudrais faire des films avec des femmes, presque collectivement, avec des metteurs en scène qui soient des femmes et avec des femmes qui jouent des rôles qui montre un peu ce que sont les difficultés des femmes actuellement, qui sont gigantesques quand on sait les problèmes qu'elles ont, un million d'avortements par an en France, qu'on soit pour ou contre, ils sont là, le million d'avortements est là. Il faut donc bien en tenir compte, or on n'en tient pas compte, on n'en parle pas. ni au théâtre ni au cinéma. C'est peut-être difficile à faire, mais je pense que c'est à nous de le faire.
L'avortement, c'est un sujet sur lequel vous vous êtes engagée avec passion. Delphine Seyrig, je le rappelle, vous êtes l'une des signataires du manifeste des 343 salopes, paru dans le Nouvel Observateur en avril 71. C'est même dans votre appartement, place des Vosges, à Paris, qu'a eu lieu en août 72 la première démonstration d'une nouvelle méthode d'IVG devant les militantes du MLF. Aujourd'hui, on est en 2020, et le droit à l'avortement, il est encore remis en question, comme si on revenait sur vos combats, sur vos victoires, à ceux qui les remettent en question, vos libertés. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce matin?
Vous êtes tous des hommes, là. Il y a des millions de femmes en France, et on est en train de discuter, de savoir si on doit leur donner la liberté, si elles sont capables de prendre leurs responsabilités. En somme, nous sommes des petites personnes inintelligentes, comme des petits chiens qu'on doit promener de telle heure à telle heure, et on ne nous donne pas notre autonomie, l'autonomie de notre corps. Notre liberté, nous la prenons tous les jours au risque de notre vie. Les femmes se font avorter au risque de leur vie. Il est plus traumatisant, et toutes les femmes le savent, d'élever des enfants que d'avorter. Chaque femme doit se faire avorter dans les conditions qu'elle souhaite.
Et la maternité d'ailleurs, ça vous inspire quoi à vous?
La plupart des enfants qui existent au monde sont des accidents, on le sait parfaitement. Mon enfant n'était pas un accident, mais les raisons pour lesquelles j'ai voulu l'avoir sont très douteuses à mon avis. C'était justement peut-être pour correspondre à une image du bonheur, ce bonheur mensonger, hypocrite, qui fait que toute femme croit qu'elle n'est pas une vraie femme si elle n'a pas à un moment donné un enfant. Ce que je crois totalement faux, et l'instinct maternel est une chose très douteuse, dont je doute énormément.
Je vous sens émue, là.
J'ai les mains qui tremblent, je ne suis pas à mon aise, parce que j'ai trop à dire, il y a un trop-plein. Beaucoup de femmes ont ce trop-plein en elles. C'est justement, ça prouve que leur vie n'est pas ce qu'elle devrait être. Et je crois que c'est très important à dire, parce que je le ressens moi-même là en ce moment, et que je trouve que, étant une femme, je voudrais qu'on sache que j'en suis consciente, et que je sais que beaucoup de femmes partagent ça avec moi.
Dans quelle mesure est-ce que vous en avez fait les frais, alors, de tout ça?
Je m'aperçois bien, moi, ayant eu une existence quand même relativement privilégiée, dans la mesure où mon travail a marché, que j'ai choisi le travail que j'ai voulu, que j'ai eu une enfance pas dramatique, mais au contraire heureuse, je me rends compte que même malgré tout ça, il y a des choses où j'ai été victime d'un environnement, d'une pensée, d'une oppression qui existe. Et je sais que ça doit être encore beaucoup plus difficile pour des femmes qui, elles, n'ont pas eu les chances que j'ai eues, moi.
Ça veut dire que jamais vous ne vous êtes sentie libre ?
On dit volontiers, et à tort à mon avis, qu'il existe des femmes libres, et je crois que c'est faux, et je suis la première à savoir que je ne suis pas libre. Moi, à partir du moment où je m'en rends compte et où je le dis, je deviens quelqu'un de très antipathique pour les hommes.
Au point, Delphine Seyrig, de vous sentir esclave?
Je suis le type de l'esclave. Je crois que les actrices sont dépendantes, comme toutes les autres, du règne des hommes, et grâce à ça, bon, j'ai fait des films et j'ai joué au théâtre. Ma célébrité, elle est due au plus grand des hasards et à l'appui certainement des hommes.
Vous exagérez un peu, là, quand même. Cette carrière, cette trajectoire, cette célébrité, vous ne les devez qu'à vous.
La première fois que je vous ai vu, c'était dans le jardin de Frédéric Spatt.
Je ne crois pas qu'il s'agisse de moi. Vous devez vous tromper.
Vous m'attendiez.
Pourquoi vous attendrais-je?
Je vous ai moi-même attendu longtemps.
Dans vos rêves?
Déshabite, toi.
Dans ce cas, éteins la lumière.
Pourquoi?
Parce que je suis pas encore guérie.
Madame, vous n'aviez pas le droit d'entrer ici, si toutes les clientes faisaient comme vous.
Mais si toutes les clientes faisaient comme moi, toutes les clientes s'appelleraient Fabienne Tabac. Je suis la femme du patron.
Oh, laissez-moi.
Mais c'est pas grave du tout. Vous faites votre travail, c'est vous le nouveau.
Oui, c'est moi.
Antoine, c'est ça?
Ta main est douce comme de la soie, douce comme la joue d'une pêche, douce comme un péché.
Eh bien, racontez-moi donc la suite de notre histoire.
Je ne suis pas une apparition, je suis une femme. C'est tout le contraire.
Demandez-lui une robe couleur de lune. Nous verrons bien. J'aime Michael Richardson. Je ne suis pas libre de cet amour.
Je le sais.
Vous n'avez aucune chance.
Il me chasserait.
Oui, Vous êtes quelqu'un qu'il leur faut oublier.
Chère Jeanne, cher Sylvain, il faut d'abord que je m'excuse auprès de vous d'avoir mis si longtemps avant de vous répondre. Pourtant, je pense souvent à vous deux.
Scum Manifesto de Valérie Solanas. 1967.
Les fées ont toujours raison.
Delphine Seyrig, invitée exceptionnelle d'un boomerang un peu spécial ce matin, et j'aimerais, si vous le voulez bien, que l'on parle un petit peu d'art. Même si chez vous, Delphine, l'art et le politique sont étroitement liés. Quand est-ce que vous avez été appelée par le théâtre ? Parce que c'est par le théâtre que ça commence.
Être appelée, c'est un grand mot. J'ai eu envie de faire du théâtre vers 17-18 ans, parce que j'avais des amis qui faisaient du théâtre et que ça me semblait extrêmement fascinant, et j'avais envie de mener cette vie. Et surtout, comme je ne voyais rien d'autre que je puisse faire, j'étais une très mauvaise élève, je ne voyais pas vers où aller. Et tout à coup, ça m'a semblé être une chose à laquelle je pourrais... dans laquelle je pourrais fournir un gros effort. Il m'a semblé tout à coup que je comprenais ce que c'était que le travail, alors qu'avant, le travail me semblait vraiment le cauchemar. Et tout à coup, je me suis aperçue que pour le théâtre, pour jouer la comédie, pour être actrice, j'étais capable de fournir des efforts très grands.
Enfin, les efforts, c'est une chose, la réussite, en est une autre. Ça n'a pas marché tout de suite.
C'est-à-dire qu'au départ, personne ne voulait de moi. Enfin, il s'est passé des années entières où moi j'avais envie de jouer, où j'allais voir des gens, où je passais des auditions, où personne ne voulait de moi. C'était avant Marianne Bad. Depuis Marianne Bad, je n'ai pas arrêté de travailler.
C'est vrai qu'après le film d'Alain René, l'année dernière à Marianne Bad, en 61, vous êtes devenue une incarnation du cinéma français, et notamment grâce à votre voix. D'où vient-elle, cette voix ?
Je crois que si on cherche, moi j'ai toujours pensé que le fait que j'étais bilingue et que j'avais vécu en dehors de la France, les femmes en France ont une voix assez particulière. Chaque pays, je sais pas, les Italiennes par exemple, on les reconnaît à la voix, elles ont une voix très cassée, comme ça, très... Et en Amérique, on a la voix très grave aussi, les femmes ont des voix graves. En France, des voix assez claires. Bon, moi j'ai vécu beaucoup au milieu d'Américaines et de... Peut-être que ça a influencé la façon dont ma voix s'est placée, je sais pas.
Mais vous l'aimez, votre voix ?
Pourquoi ?
Pourquoi pas ?
Et je comprends pas très bien ce que vous voulez dire.
Non mais parce que moi je pose ce genre de questions dans Boomerang, vous la connaissez l'émission Delphine, donc vous l'aimez votre voix ?
Oui, je pense, oui.
Vous parliez à l'instant de l'étranger, du fait d'avoir vécu ailleurs, d'où est-ce que vous venez ?
Je sais pas, je suis née au Liban, j'adorais le Liban, je suis pas retournée depuis longtemps... Ensuite, j'ai connu l'Amérique, ça a été merveilleux. Ensuite, j'ai connu de nouveau le Liban un petit peu, puis de nouveau la France. Puis j'ai découvert la France très tard, vers 14-15 ans. Mais je sais pas, je me sens pas appartenant à la France particulièrement.
Mais quand vous pensez à la France, à notre culture, à notre langue, vous pensez à quoi ? Qu'est-ce qui en fait la spécificité ?
Nous héritons d'une tradition qui fait que tout est dans le verbe. Et on s'aperçoit en Amérique que le verbe passe à travers, ça n'est que l'aboutissement de toutes sortes d'émotions, de choses qu'on ressent, qui passent par le corps, et les mots arrivent par là-dessus, c'est tout. Et d'ailleurs, on se rend compte très souvent dans la musique américaine où les mots sont très très importants, mais on n'essaye pas du tout de les faire comprendre par une diction impeccable, toujours. Et alors qu'en France, il y a cette tradition verbale, j'ai découvert en Amérique que c'était pas nécessairement le meilleur moyen de s'exprimer, que de faire passer les mots avant le reste.
Alors comment vous faites ?
Je me sers de mes moyens à moi, et j'ai beaucoup de mal, et j'y arriverai peut-être un jour, mais je progresse petit à petit, les choses se clarifient pour moi, mais mon instrument, c'est mon corps, c'est tout ce qui fait que je suis une actrice.
Alors quel est son rôle justement ? À l'actrice, puisqu'on en parle, quel est son rôle dans la société pour vous, Delphine Seyrig ?
Je pense que le théâtre et le cinéma sont des moyens d'informer les gens qui sont merveilleux. Alors on peut les informer sur toutes sortes de choses, on peut les amuser par notre imagination ou par l'imagination d'un réalisateur. C'est de l'information aussi, de savoir ce qu'on peut inventer à partir de choses plus ou moins vraies. Bon. Mais il y a aussi d'autres sortes d'informations sur la réalité, sur des choses que les gens qu'on cache soigneusement aux gens, qu'ils se cachent à eux-mêmes, et que peut-être les acteurs peuvent tout à coup faire sortir de façon à ce que ça devienne une chose évidente et vraie et pas hypocrite, cachée et dissimulée. Je crois que les acteurs ont un rôle à jouer de cette façon-là. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, les acteurs. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'amuse, c'est ce qui me passionne. Alors, je fais des choses très différentes. J'ai fait des films où je jouais des femmes assez sophistiquées, effectivement. Mais j'essayais de faire passer autre chose, d'ailleurs, à travers ces rôles. Je sais pas si ça passait. C'est dur de toute seule essayer de faire passer quelque chose qui n'est pas forcément, enfin, entre les lignes, quoi. Je sais pas si ça sent, je sais pas si les gens le sentent. Peu importe. Peut-être que maintenant, j'ai envie d'aller plus directement, au lieu de dire les choses entre les lignes, de les dire toutes crues.
Quand vous disiez sophistiqué, c'est intéressant. Ça vous est arrivé d'avoir le sentiment d'être enfermé dans une image, dans cette image?
Toute cette histoire de sophistication qu'on m'applique, bon, ça m'est égal, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Ce que je crois, c'est qu'on essaye de donner une image de quelqu'un, et c'est ce qu'on essaye toujours de faire, de donner une image d'une personne, et de cette façon-là, de la limiter et de l'empêcher de se renouveler et d'aller ailleurs. Moi, je suis une personne très directe, je crois. Si j'ai joué les personnages que j'ai joués qui ont pu donner cette impression, c'est d'abord parce que c'était malgré tout les personnages les plus intéressants qu'on m'ait proposés. Donc ça venait aussi de l'extérieur et de ce qu'on me demandait de faire. Et d'autre part, on serait très satisfait de me maintenir dans ce genre de choses. Et moi, j'ai la ferme intention de ne pas me laisser faire.
Et vous avez raison. Et il se trouve, Delphine Seyri, que l'un de vos anciens films s'apprête à ressortir sur les écrans. Alors, c'est un petit peu votre actualité, même si vous n'êtes pas ici pour faire votre promo. Hein. Mais c'est quand même pour ça aussi que je vous reçois ce matin, Les Lèvres Rouges d'Harry Kummel, un film dans lequel vous jouez le rôle d'une femme vampire, ressort en salle. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette figure du vampire?
On a beaucoup comparé les vampires à tous les gens très méchants qu'il y a sur Terre, mais les vampires, en fait, me plaisent parce qu'ils sont souvent très malheureux et qu'ils ne trouvent pas de quoi vivre. Très souvent, ils sont affamés, assoiffés. Et puis, je crois que ça me plaît aussi parce que ça correspond à des histoires qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur. Et que finalement, ça se retourne contre les gens qui racontent, parce que ces histoires qui sont censées faire peur aux jeunes filles, par exemple, finalement, ça les séduit énormément. Et dans toutes les histoires de vampires, même dans Le Vampire de Dreyer, qui est le classique du vampire, on voit les jeunes filles qui finalement ne résistent pas, sortent se promener le soir pour rencontrer le vampire, pour le revoir. Ces histoires qui, au départ, étaient sûrement faites pour faire peur aux gens, pour que les filles restent vertueuses, pour qu'elles ne sortent pas seules la nuit, etc. Eh bien, on arrive au résultat inverse, qui est que ça leur donne envie de tenter toutes ces aventures.
Qu'est-ce qui vous fait peur, à vous?
Oh, je n'en sais rien du tout.
Vous êtes en train de mentir.
Ça, je n'en sais rien du tout.
Vous êtes en train de mentir, là, Delphine. C'est parce que je le sens, et je le vois même, dans vos mains, qui sont en train de trembler aussi. Qu'est-ce que c'est pour vous, la peur? C'est peut-être une drogue?
C'est pas une drogue, non. C'est un travail.
Ça, c'est la première fois qu'on me le fait, celle-là. On va reparler de travail, de voix, et qui sait, peut-être même de drogue. Juste après, une chanson champignon, celle de la fée des Lilas, à qui vous prêtiez votre personne et votre voix dans le pot d'âne de Jacques Demy en 1970 sur une musique de Michel Legrand. Vous êtes sur France Inter avec Delphine Seyri, en rêve, évidemment.
La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments, mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent dans leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois, mais une fille et son père, c'est ma foi, un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut oublier à présent ces fantasmes démoralisants. Et vous rencontrerez un charmant va-nu-pied ou un prince mendiant. Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant
vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements. Je vais vous éclairer brillamment. Je vais vous protéger. J'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
En fait, je peux dire ce que je veux. Je peux même mentir un petit peu, dire qu'elle est là, tout en mauve, baguette magique et falbala, dans le studio de France Inter, qu'elle s'est levée, comme dans India Song, pour danser en robe du soir, qu'elle est tout simplement face à moi, qui sait, en train d'éplucher consciencieusement des pommes de terre, comme dans Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, une femme silencieuse, qui dit les silences de toutes les autres. Delphine Seyrig, invitée de rêve de ce boomerang exceptionnel ce matin pour parler de cinéma. Peu de gens le savent, mais vous êtes aussi, Delphine, cinéaste. Ce travail que vous proposez avec Carole Roussopoulos, comment est-ce que vous le qualifieriez?
C'est un travail très ambitieux que j'avais entrepris il y a 2 ans et demi. Ça s'appelle « Sois belle et tais-toi ». Et c'est un montage d'interviews que j'ai faites moi-même d'autres actrices à qui j'ai posé des questions que je me posais à moi-même en tant qu'actrice. Nous étions juste 2 à filmer et il y avait une grande intimité. Le fait que nous exercions le même métier, on a pu s'apercevoir par exemple qu'on nous faisait jouer des scènes entre femmes, très rarement amicales.
Mais pourquoi se placer derrière la caméra ?
On a chacune nos raisons de faire la vidéo. Moi, c'est, je crois, principalement parce que je suis une actrice et que j'interprète toujours les choses des autres et que j'aime bien, de temps en temps, avoir une expression à moi et dire ce que moi, je pense de certaines choses ou de traiter des sujets qui, moi, m'intéressent.
Il s'agit de prendre la parole, en fait. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une femme décide de prendre la parole?
En général, on a peur des femmes qui parlent, qui disent ce qu'elles pensent. Toutes les femmes pensent, mais il y en a peu qui ont l'occasion de dire ce qu'elles pensent. Et quand elles ont l'occasion de dire ce qu'elles pensent, elles font très peur, parce que c'est un son de cloche qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, parce qu'on se dit « Oh, elle manque de féminité, c'est pas une vraie femme. » Et au fond, tout ça cache de la peur. C'est tout. Je crois qu'on a très peur des femmes qui se montrent, fortes.
Vous voyez que là, c'est vous qui parlez de la peur. Hein.
Ça, c'est vous qui le dites.
Non, c'est vous, Delphine, là, qui venez de le dire.
Enfin bref, je ne veux plus parler de ça, ça ne m'intéresse plus.
Et c'est intéressant pourtant. Dans quelle mesure, Delphine Seyrig, filmer les femmes, comme vous l'avez fait avec Carole Roussopoulos dans Sois belle et tais-toi, mais aussi dans Scum Manifesto ou encore Mazo et Miso vont en bateau, co-réalisé avec Naja Ringhart et Yona Vider, ça a aussi été un moyen de garder la mémoire de leur combat.
On a fondé il y a 3 ans un centre, qui est le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, qui est un centre qui a voulu justement conserver la mémoire de toutes ces luttes de femmes qui avaient été filmées par des femmes à l'époque. Tous ces documents sont conservés maintenant au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, qui veut créer une mémoire, qu'on n'oublie pas ces choses-là, et que les femmes puissent aller aussi se reconnaître dans des modèles de femmes non conformistes.
Quand est-ce que vous avez compris, Delphine Seyrig, que la présence des femmes était presque systématiquement effacée de l'histoire officielle?
Quand j'étais petite, j'entendais parler des suffragettes et comme étant des femmes ridicules, tout à fait prudes, qui étaient des femmes un peu bêtes. Et bon, on n'entendait que ça. Quant à savoir ce qu'elles avaient fait, ça, on ne nous le disait pas. Et ça ne s'apprend pas à l'école. Et on devrait tout de même, je trouve... savoir ce que ça a été que les suffragettes et les... N'est-ce pas, ce mouvement pour le vote a commencé, en tout cas en Angleterre et aux États-Unis, chez des femmes qui luttaient contre l'esclavage, qui voulaient libérer les Noirs de l'esclavage. Et puis, on leur interdisait de parler dans les grands meetings. Donc, ça a été ça le démarrage du fait que les femmes ont décidé de se réunir tout ensemble.
On l'entend, hein, Delphine, cette idée d'ensemble, d'union des femmes, de collectivité, de sororité, comme on dit aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental pour vous.
Je pense que les femmes doivent apprendre à se comprendre entre elles. Elles sont divisées, on exerce des rivalités entre elles, on essaye de les isoler, chacune dans leur foyer. Quand les femmes se réunissent, si les femmes disaient à leur mari, voilà, ce soir, je vais à une réunion, il y a beaucoup d'hommes qui diraient, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ou qui riraient, ou qui se fâcheraient. Je connais des cas d'hommes qui se fâchent. Ils trouvent ça ridicule, ils sont même grossiers.
En tout cas, ce désir de collaboration, il se manifeste dans votre filmographie. Je pense évidemment à la relation très particulière qui vous unit à Marguerite Duras. Je pense tout de suite à India Song.
On a tourné en 12 jours, India Song. Et je lui disais, ben moi, je suis prête à signer un contrat avec vous Pour faire 12 films par an, ça nous donne 15 jours de vacances par mois. Et on ferait 12 films à l'année. Voilà. Donc ça prouve quand même un peu que je serais prête à tourner avec elle sans lire, puisque j'étais prête à m'engager à l'année pour tourner 12 jours par mois.
C'est pas un hasard si je vous parle de Marguerite Duras, Delphine Seyrig, parce qu'il se trouve que c'est un texte d'elle que vous avez choisi de nous lire ce matin, un texte sur la beauté. Qu'est-ce que c'est pour vous, la beauté, tiens?
En fait, la beauté est d'abord une chose qui passe, est une chose sur laquelle on nous apprend beaucoup à compter. Enfin, on nous apprend aussi qu'on la jette à un certain moment donné, la beauté, parce qu'elle passe, parce qu'elle n'est plus égale à elle-même.
Vous trouvez belle, vous?
Oui, je pense, oui.
Ah bon, voilà, une réponse honnête, il fallait attendre.
Je sais pas, j'ai pas du tout un sentiment de perfection, j'ai un sentiment de gigantesque imperfection. Je crois qu'on l'a toujours quand on travaille.
C'est-à-dire que peut-être que la beauté...
Quand on est avec des autres et qu'on est publiquement filmé ou vu, ou etc., on a un sentiment de grande imperfection.
Mais peut-être que la beauté, elle est nécessairement imparfaite, justement.
Ça, c'est vous qui le dites.
Non, c'est vous qui allez nous le dire, parce que vous avez choisi, Delphine Seyrig, de nous lire un texte de Marguerite Duras, un texte sur la beauté, accompagné au piano par un pianiste fantôme qui vient de faire son entrée dans le studio de France Inter. C'est vous, Delphine, qui allez la conclure, cette émission. On vous écoute.
Je pourrais me tromper, croire que je suis belle comme les femmes belles, comme les femmes regardées, parce qu'on me regarde vraiment beaucoup. Mais moi, je sais que ce n'est pas une question de beauté, mais d'autre chose. Par exemple, oui, d'autre chose, par exemple d'esprit. Ce que je veux paraître, je le parais. Belle aussi, si c'est ce que l'on veut que je sois. Belle ou jolie. Jolie, par exemple, pour la famille, pas plus. Tout ce que l'on veut de moi, je peux le devenir. Et le croire. Croire que je suis charmante aussi bien. Dès que je le crois, que cela devienne vrai pour celui qui me voit et qui désire que je sois selon son goût, je le sais aussi. Je suis avertie déjà. Je sais quelque chose. Je sais que ce ne sont pas les vêtements qui font les femmes plus ou moins belles, ni les soins de beauté, ni le prix des onguents, ni la rareté, le prix des atours. Je sais que le problème est ailleurs. Je ne sais pas où il est. Je sais seulement qu'il n'est pas là où les femmes croient.
Merci tellement.
Merci.
Delphine Seyrig, merci aussi à Jacques Chancel, Anne Sinclair, Carole Roussopoulos, Callisto McNulty, Claude Lanzmann, Mathilde Rane, Pierre Dumayet, tant d'autres qui ont si bien recueilli, compilé, écouté votre parole que j'ai empruntée ce matin en essayant de vous être fidèle. Merci infiniment à toute l'équipe de Boomerang qui a travaillé d'arrache-pied pour construire cette émission de son, de création, d'émotion. Perrine Malinge, Pierre Martinerie, Lola Costantini, Léonard Billot, Pablo Cotten, vous êtes des as.
Tout de suite, c'est l'heure de la médiatrice des antennes, Emmanuel Davier. Il est 9h40 sur France Inter.